Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Le débat du jour.
Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. À quoi servent les sommets internationaux en ces temps d'unilatéralisme? Eh bien, c'était la question que nous nous posions sur RFI le 28 novembre dernier. Nous étions alors à la veille du sommet du G20 en Argentine. Cette rencontre annuelle des chefs d'État et de gouvernement des 20 pays les plus riches de la planète. La raison d'être du G20 est de coopérer pour la stabilité économique, financière et commerciale. Mais en ces temps de guerre commerciale entre partenaires supposés et au moment où de nombreux pays préfèrent jouer les solistes plutôt qu'être au sein de l'orchestre mondial, il y a comme un doute sur l'efficacité de ces rencontres. À quoi servent les sommets internationaux? C'est la question posée par Guillaume Nodin.
Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Philippe Moreau de Farge, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géopoliticien, auteur de La Tentation du Repli, c'est aux éditions Odile Jacob. Et Dominique Plion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à l'université Paris 13 et porte-parole d'Attaque, le mouvement altermondialiste. La petite musique que l'on entend avant ce sommet, elle est surtout pessimiste. Qu'est-ce qu'il est prévu de décider? Qu'est-ce qu'il y a au programme? Qu'est-ce qu'il y a à attendre? J'allais vous demander, Dominique Plion.
Ben, déjà, des chefs de gouvernement, des chefs d'État se rencontrent et se parlent ou ne se parlent pas parce qu'il y a des entretiens qu'on annonce et qui n'ont pas lieu. C'est toujours bien que les responsables politiques se parlent. Bon. Ceci dit, je voudrais tout de suite dire d'emblée que nous avons, nous, Attaque, en tant qu'altermondialiste, un regard très très critique sur le G20, comme nous l'avions aussi d'ailleurs sur le G7, même s'il y a eu un élargissement du G7 au G20, parce que c'est quand même, certes, les pays les plus riches, les 20 pays les plus riches, mais c'est quand même seulement 10% du nombre de pays de la planète. Hein. Donc ça veut dire que tous les pays en développement sont exclus de cette rencontre. Alors j'ai bien que c'est difficile de faire se rencontrer tout le monde, mais il faut bien que nos auditeurs sachent que voilà, c'est une sorte de rencontre des plus puissants, des plus riches, etc. Et que peut-être... ce genre de sommet peut être utile, encore que j'en doute, hein, on va en parler, hein, mais en tout cas, je trouve qu'il faut le dire, quoi, c'est quand même les plus puissants, et donc ça en dit long sur la manière dont aujourd'hui le monde fonctionne.
Voilà. Ça veut dire que pour vous, grosso modo, il n'y a pas grand chose à attendre.
En tant qu'intermondialiste, on est très critique sur ce, non, mais sur ce direct succès, ça peut marcher, mais est-ce que ça se... Les décisions, si elles sont prises, ne se prennent pas sur le dos de la majorité des pays.
Philippe Moreau de Farge, qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un sommet comme ça?
Je vais quand même beaucoup plus optimiste que Dominique Plion. Premièrement, il est important, ce qu'a dit Dominique Plion, je suis d'accord, il est important que les gens se parlent, tant qu'ils se parlent. Bon, tant qu'ils acceptent un cadre de décision, ça veut dire qu'ils ne se font pas vraiment la guerre. Bon, ces sommets, en outre, ces sommets s'inscrivent, je dirais, dans un dispositif plus vaste de construction d'un véritable système, je dirais, bureau démocratique ou politico-administratif planétaire. Là, c'est quand même important que ça continue. Alors, que les résultats soient faibles. D'ailleurs, vous avez dit une chose qui m'a frappé. Vous avez dit, ce sont les 20 pays les plus riches de la planète. C'est pas tout à fait vrai. Hein. C'est
Corrigez-moi, allez-y.
Alors oui, je suis désolé de vous corriger, la composition du G20 est extrêmement hétéroclite. Mmh. Par exemple, il y a des pays très riches qui n'y sont pas. Les Pays-Bas n'y sont pas. Très cuir.
Et puis, ils sont invités par la présidence argentine. C'est vrai. Officiellement dans l'organisation.
Ce qui est assez intéressant, c'est la réunion du G20 à Buenos Aires, c'est-à-dire dans un pays qui est en crise économique grave. Hein, il y a une espèce de paradoxe. Non, la composition du G20 est assez hétéroclite. Alors, vous avez raison, ce sont pour l'essentiel des pays occidentaux, parce que ça a été créé quand même largement lié à la crise financière. Enfin, ça s'est développé à cause de la crise financière de 2007-2008. Mais... je crois que je serais moins... Tu vois, il y a une autre remarque que je veux faire, c'est que les critiques de Dominique Plion sont fondées. Néanmoins, on est en train de construire quelque chose. C'est-à-dire, on est en train de construire une gouvernance mondiale. Ça prend beaucoup de temps. C'est extrêmement compliqué. Et notamment, le problème de la représentation des États pertinents, parce que la logique, c'est qu'il faudrait que tous les États de la planète soient là. Mais c'est pas possible. Alors, quels seraient les États pertinents qu'il faudrait associer à ça? C'est vrai qu'il faudrait plus de pays émergents.
Pays en développement.
Les pays en développement.
Y compris les PMA, les pays les moins avancés.
Alors, le sommet du G20, on l'a compris, c'est une rencontre à dominante économique. Oui. Et hier, le Fonds monétaire international, je sais que c'est pas tout à fait votre tasse de thé, Dominique Plion, le FMI avertissait que les tensions commerciales et internationales pourraient coûter cher à la croissance mondiale. Le FMI essaye de faire peur. C'est pour inciter à la coopération, selon vous?
Oui, mais enfin, je pense que Monsieur Donald Trump, qui était un des empêcheurs de tourner en rond, n'est absolument pas impressionné par ce genre de déclaration. Donc le Fonds monétaire, de ce point de vue-là, le Fonds monétaire est capable d'imposer des plans d'ajustement extrêmement durs à des pays pauvres et des pays
notamment
faibles.
Notamment l'Argentine, d'ailleurs.
Oui, et notamment l'Argentine. Mais par contre, aux États-Unis ou aux grands pays riches, il ne fera rien. Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est cette asymétrie entre les différents types de pays, notamment les pays créanciers et les pays débiteurs. Parce que si on avait un vrai système un petit peu démocratique à l'échelle mondiale, il y aurait un poids égal donné aux créanciers, aux débiteurs. Aujourd'hui, le Fonds monétaire est là pour défendre principalement les créanciers.
Ce qui est très difficile, c'est que ce que dit Dominique Fillon, c'est que la justice voudrait un système démocratique mondial où il y ait des représentations équitables des différents groupes de pays. Néanmoins, nous restons dans le vieux monde. Alors vous me direz, qu'est-ce que c'est que le vieux monde ? C'est un monde de puissance inégale. Si vous voyez, aujourd'hui, imaginez que la Chine soit égale avec un pays africain, c'est inconcevable pour les Chinois eux-mêmes. Donc on reste dans un monde de rapports de force. Donc comment bâtir un système démocratique, comme le dit Dominique Fillon, tout en tenant compte de la réalité des rapports de force et du fait qu'il y a toujours des grandes puissances et qui se comportent en grandes puissances.
Alors aujourd'hui, dans un entretien à la presse argentine, puisqu'il est en voyage officiel avant ce sommet, Emmanuel Macron met en doute l'efficacité de ces grands messes internationales. Que viennent chercher les dirigeants internationaux si même ceux qui se proclament ou s'autoproclament défenseurs du multilatéralisme n'y croient pas? Comment ça peut marcher dans ces conditions-là, Dominique Fillon?
Écoutez, je ne sais pas, c'est pour se faire voir, c'est pour rencontrer des chefs d'État et de gouvernement qui ne rencontrent pas d'habitude, de manière courante, mais voilà, Emmanuel Macron a quand même un point de vue ou une position un peu incohérente, parce que il se fait le défenseur du multilatéralisme, en disant moi, ou défenseur de la planète aussi, alors qu'on voit que la politique qu'il mène, on parlera peut-être de climat tout à l'heure, pour le climat, mais bon, parlons de la politique en général, enfin de la politique notamment économique, et en même temps, il est le défenseur des traités de libre-échange entre des blocs restreints de pays. On vient de signer deux traités contre lesquels, enfin, nous nous insurgeons parce qu'on pense qu'ils sont pas dans l'intérêt général des populations. C'est le traité avec le Canada, le CETA, hein, et d'autre part très récemment avec le Japon, le JETA. Nous pensons que ça, c'est pas du multilatéralisme. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi.
Non,
et donc ça, Monsieur Macron défend mordicus ces traités alors que nous contestons, alors qu'il y a des rapports notamment d'experts nommés par le gouvernement d'ailleurs qui contestent le bien fondé et même les côtés positifs sur le climat ou sur le social de ces traités, et Monsieur Macron les défend. Donc si vous voulez, voilà, il est en pleine incohérence.
Philippe Moreau de Farge, je voulais réagir là-dessus.
Oui, non, d'abord j'ai envie de dire, au moment où le multilatéralisme est en difficulté, moi je trouve bien qu'il y a encore des accords de libre-échange qui se fassent, qu'on essaye de continuer à faire la machine. Malgré tout, le multilatéralisme, il y a une crise profonde, il faut faire attention. Bon, deuxièmement, ce que dit Emmanuel Macron, je suis un peu d'accord avec ce que dit Dominique Pillon. C'est pas efficace, pertinent de critiquer ces réunions. À nouveau, il est bon quand même que ces gens se voient. Alors, je vais faire un petit peu d'humour. C'est qu'on disait que ces sommets, l'utilité de ces sommets, c'était de permettre à chaque chef d'État de gouvernement de vérifier si l'autre avait vieilli, comment l'autre avait vieilli. Et il y avait un peu de ça. Mais malgré tout, si vous voulez, on voit bien qu'on est, et là je pense que Dominique Fillon devrait malgré tout être d'accord avec moi, on essaie de bâtir une gouvernance mondiale. On y a beaucoup de mal, et il y a tous les obstacles que vous avez évoqué. Mais malgré tout, ces sommets ont quelque chose de positif.
Pourquoi, Dominique Pillon, est-ce que l'unilatéralisme, malgré cette volonté de bâtir une meilleure gouvernance, pourquoi est-ce que l'unilatéralisme progresse ?
Bah, parce qu'il y a des grands pays qui ont le pouvoir d'être unilatéraux, parce que les petits pays ne l'ont pas. Comme les États-Unis, la Russie, par exemple, ou la Chine d'ailleurs, ouais. Qui pratiquent ces politiques-là. Donc quand ça les arrange, ils sont multilatéraux, et quand ça les arrange de ne plus l'être, ils deviennent unilatéraux. Mais je voudrais rajouter une idée qui pourra peut-être faire débat entre nous. Aujourd'hui, les acteurs dominants de la mondialisation économique, ce sont les entreprises multinationales. Et ce ne sont pas les États. Et donc aujourd'hui, ce genre de grand-messe où se rencontrent les chefs d'État, si vous voulez, c'est très bien, mais c'est pas eux qui ont le pouvoir, en fait. Ceux, dans l'ombre, parce que souvent, on ne le sait pas, c'est des pratiques du lobbyisme, hein, des groupes d'influence, etc., c'est eux qui organisent les règles de la mondialisation, en termes de droits, en termes de sanctions éventuelles, etc., c'est eux. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que c'est une grand-messe, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance, parce qu'il faut que les auditeurs sachent que ceux qui gouvernent le monde aujourd'hui, qui ont le pouvoir, ce sont les grandes entreprises transnationales et les États ont perdu beaucoup, beaucoup de pouvoir avec la mondialisation.
Philippe Morodefer, les grands messes et les sommets internationaux, c'est un théâtre de marionnettes,
non,
c'est un
peu l'idée de Dominique Plihan. Non, attendez, je ne peux pas être tout à fait d'accord avec Dominique Plihan. D'abord, même si les États, comme il le dit, bon, doivent tenir compte des réalités économiques, ils gardent un pouvoir fondamental. Ils gardent, je dirais, le pouvoir de contrôler les territoires. Les territoires, ils les contrôlent. Et malgré tout, les entreprises ont besoin de se déployer sur des territoires. Et on a des États qui peuvent coopérer, qui peuvent être en compétition. Mais malgré tout, les entreprises restent des structures très relativement fragiles. Même, si vous voulez, même Amazon ou toutes ces entreprises qui font très peur, elles sont fragiles. Regardez la disparition d'un certain nombre d'entreprises. Nous restons dans un monde d'État parce que ce monde reste régi par des territoires sur lesquels les États souverains. Je crois que c'est très important de ne pas oublier ça.
Là, Apple, combien de divisions?
Ouais, je me permettrais d'être pas tout à fait d'accord avec vous. Il y a la mondialisation que nous appelons néolibérale, c'est-à-dire au contraire, on a aboli les frontières, on a déréglementé au maximum.
On n'a pas aboli les frontières.
Mais si, on a déréglementé au maximum. Non. Donc aujourd'hui, il y a plus pratiquement de protection nationale possible en matière d'échanges commerciaux, etc. Et d'ailleurs, les traités de libre-échange s'ingénient à supprimer à réduire au maximum toutes ces normes qui sont vues comme des obstacles par les multinationales à l'échange. Donc ça, si vous voulez, non, moi je pense que la mondialisation là, qui est pas celle que nous voulons, parce que nous sommes intermondialistes, cette mondialisation là, c'est au contraire, elle territorialise les choses. C'est-à-dire les entreprises se jouent des territoires en mettant des filiales à gauche, à droite, notamment pour organiser, par exemple, l'évasion fiscale. Et donc, si vous voulez, voilà, on le voit avec Apple, on le voit avec même nos entreprises à nous, entre guillemets, comme par exemple, je sais pas moi, Danone, BSN Gervais Danone qui est installé un peu partout et qui utilise, bien sûr, le territoire national comme base arrière, c'est vrai, mais en fait, c'est des entreprises, quelquefois on dit sans usine, ils conçoivent le produit et ensuite ils le font produire à l'autre bout du monde et en fait ils se jouent des territoires et les différents pays n'ont pas beaucoup de pouvoir par rapport à ça.
Pour conclure sur cette question.
Non, je peux pas, tout à fait d'accord. C'est vrai que si vous voulez, la mondialisation, c'est la constitution de la Terre comme un marché mondial ou comme un espace mondial économique unique. C'est vrai que ça
change. On est d'accord,
mais si vous voulez, c'est porté. Là, j'ai envie de vous renvoyer au manifeste du Parti communiste de Karl Marx de 1848, oui. Il explique très bien cette espèce de dynamique qui est liée, certes sans doute au capitalisme, mais à des révolutions techniques qui obligent à créer un véritable espace économique mondial. Ça, alors, je ne suis pas sûr qu'on pourra revenir en arrière de façon où ça ne sera pas facile à manager.
Non, mais moi je souhaiterais qu'il y ait une régulation par les États, mais ce que je déplore, c'est que la mondialisation néolibérale a affaibli considérablement ce pouvoir de régulation des États.
Je rebondis sur Karl Marx et j'avance un petit peu dans le temps. Est-ce que le système multilatéral est en crise parce qu'il a été inventé finalement à une époque où il n'y avait que deux camps parfaitement disciplinés, Philippe Moreau de Farge?
C'est assez vrai. Si vous voulez, le système multilatéral, je dirais les choses un peu autrement, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, a été créé pour le monde occidental. C'est vrai que le système multilatéral est occidental, de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 70-80. Et puis, il s'est mondialisé. Mais c'est vrai que la plupart des pays sont entrés dans le système multilatéral. Prenez l'OMC, le GATT était vraiment une organisation occidentale. L'Organisation mondiale du commerce était une organisation authentiquement mondiale. Et c'est vrai qu'il y a... Dominique Plihan, moi, je pense que il y a peut-être le poids des entreprises. Il y a aussi un autre facteur qui est important. C'est l'inégalité des États. Ah ben. À nouveau, la Chine, les États-Unis ne sont pas prêts à être égales au Luxembourg, à la France. Et ça, c'est une donnée fondamentale.
Des pays qui étaient nains sont devenus de grandes puissances, Dominique Plihan, et ne veulent plus, ne peuvent plus se plier au système. C'est presque ça.
Quand vous dites
nains, je veux dire économiquement et politiquement.
Oui, ils veulent. Ils veulent imposer leur propre
vision du monde.
Mais si je peux me permettre quand même pour suivre le débat, parce que je crois que c'est important pour nos auditeurs, c'est qu'on est, vous avez raison de dire qu'il y a eu une phase de l'après-guerre jusque dans les années 70, 80, 90 peut-être, même, enfin, et c'était un monde international, c'est-à-dire de relations entre les nations. On est passé d'un monde international à un monde global. Et c'est dans ce monde global que précisément les entreprises qui sont des acteurs globaux ont pris le pouvoir et que les États nationaux, dans leurs relations internationales, se sont considérablement affaiblis. Ce que je déplore, encore une fois. Je pense que aujourd'hui, il faudrait revenir à un monde avec une régulation beaucoup plus forte, avec éventuellement des protections Hein. Donc, vous parliez de frontières, mais moi, je pense que beaucoup de frontières ont été abolies. Il faudrait les réintroduire. Par exemple, je défends la souveraineté alimentaire de tous les pays. C'est-à-dire que les États ont le droit de défendre leur population, la qualité de leur alimentation, le type d'alimentation fait partie de la culture aussi, du bien-être, etc. Mais avec la mondialisation, regardez l'industrie agroalimentaire, c'est catastrophique.
Vous regrettez les frontières, Philippe Aurore de Farge.
Non, mais pour moi, elles existent toujours. Non, ce que je dis, c'est que on a diminué les obstacles aux frontières. Mais je suis désolé, il y a toujours des frontières, il y a toujours des États, il y a toujours un espace français, un espace allemand, il y a toujours des frontières. Bon, non, la question que je voudrais quand même vous poser, j'ai oublié.
Allez-y.
Comment peut-on s'opposer à la compétition? Nous sommes dans un monde de compétition. Et les pays émergents veulent la compétition. Ils jouent à la compétition. La Chine, l'Inde veulent la compétition.
Pas entièrement. Ce qui a fait avorter Doha, organisé par l'OMC.
Le cycle de négociations commerciales.
Le cycle de Doha, hein, commercial. Et, qui est une organisation, en principe, la plus multilatérale, l'OMC. Mm-hmm. Bon, parce que tous les États y sont représentés, etc.
C'est les pays émergents.
Oui. Et notamment l'Inde, qui voulait garder une protection sur leur agriculture. Oui, oui. Et donc, quand vous dites que tous les pays veulent jouer à la compétition, non. Je pense que certains pays, je pense à l'Inde, mais à d'autres encore, on pourrait imaginer en Amérique latine, en Afrique surtout, ils veulent pas cette compétition. Ça les a détruits. La paysannerie dans les pays africains a été dévastée par l'ouverture des frontières. Et donc, aujourd'hui, les pays ne souhaitent qu'une chose, c'est retrouver de la souveraineté alimentaire, justement, de l'autonomie, et ces frontières qui ont très largement disparu. Qu'on leur a imposé, hein. On a imposé l'abaissement des frontières.
Je suis obligé de vous rappeler le 19e siècle où, malgré tout, l'abolition des cornes lourdes en Royaume-Uni a permis d'ouvrir les marchés. Si chaque pays veut produire sa nourriture, la nourriture qu'il consomme, il y aura des pays d'abord qui seront très handicapés parce qu'ils n'ont pas les conditions naturelles pour produire ça. Il faut accepter.
Il ne s'agit pas de produire intégralement son alimentation. Il s'agit de pouvoir se protéger par rapport à ce qui est la base d'alimentation, par exemple les protéines, par rapport les céréales. Quand on voit l'ouverture des frontières, c'est quand même il y a eu des famines en Afrique. Mais pas plus longtemps que dans les années 2000, début des années 2000, parce que à cause de l'effondrement des prix, hein, enfin les ventes, les États n'avaient pas les ressources. Donc, je crois que
l'histoire du XXe siècle m'a rendu assez prudent vis-à-vis de l'efficacité des modèles, disons, dirigistes ou des modèles.
Non, pas dirigistes, mais il faut un minimum de contrôle. Regardez les normes sociales, environnementales et sanitaires, c'est quelque chose de nécessaire. Et si vous ne les érigez pas, si vous ne les protégez pas, elles sont mises à bas par les traités de libre-échange. C'est pourquoi on est opposé à ces traités de libre-échange.
Le système multilatéral n'a-t-il pas besoin d'une profonde réforme pour continuer à fonctionner? Je prends l'exemple, Philippe Moreau des Farges, du Conseil de sécurité de l'ONU et de sa composition des 5 membres permanents. Est-ce qu'il ne faut pas élargir tout ça?
Non, mais attendez, il faudrait élargir. Peut-être faut-il élargir tout ça. Il n'empêche que nous restons dans un monde d'États inégaux. Et que notamment les deux colosses de la planète, les États-Unis et la Chine, joueront toujours un jeu propre et elles ne se soumettront pas au multilatéral. Prenez un exemple. Attendez, vous prenez les États-Unis. Vous dites, il faut changer la composition du Conseil de sécurité. Tout à fait d'accord. Mais est-ce que la France et le Royaume-Uni quittent l'Union européenne, est-ce que la France serait prête à abandonner son siège de membre permanent pour le donner à l'Union européenne? Pas sûr. Est-ce que on serait prêt à ouvrir le Conseil de sécurité à des États comme l'Inde, etc. C'est vrai que nous sommes dans un monde où il y a des facteurs de blocage.
Oui, mais je vous trouve un peu fataliste parce que c'est vrai aussi à l'intérieur d'un pays, il y a des profondes inégalités et le progrès de la démocratie, c'est de compenser ces inégalités en donnant du pouvoir à ceux qui sont plus faibles. Et donc, au niveau mondial, c'est ça qu'il faut construire aujourd'hui. Et donc, de remplacer la concurrence à outrance par un minimum de règles de solidarité et éventuellement d'être capable de résister à des offensives.
Il nous reste quelques secondes, Philippe Moreau de Farge. Je vous pose la question à tous les deux. En quelques secondes, les sommets internationaux, stop ou encore?
Il faut continuer. Et n'idéalisons pas les pays du Sud.
Dominique Plion.
Sous une forme très différente, en invitant beaucoup plus de pays, en ayant des préparations, des échanges véritablement qui sont pas... Là, c'est de la grand-messe, c'est du show médiatique planétaire.
Merci Dominique Plion, merci Philippe Moreau de Farge d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Charles Barret à la documentation et à la réalisation. Aujourd'hui, Valentin Vaner, vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobile comme RFI Pure Radio, rubrique magazine. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.